Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Acropole pour ces histoires de France et d'ailleurs. Une chronique animée par René-Joseph Irmana. Et bien après Gérard Philippe, comme on vous le disait la semaine dernière, il va nous parler d'une grande dame du cinéma, Simone Signoret. Et on retrouve tout de suite pour nous parler de cette grande actrice, René-Joseph. René-Joseph, bonjour.
Bonjour. Donc, comme indiqué et comme annoncé mardi, eh bien, je vous parle aujourd'hui de Simone Signoret. C'est un petit peu un duo, hein, comme je l'avais fait mardi dernier. Donc, j'ai parlé principalement de Gérard Philippe, mais j'ai associé Simone Signoret. Et aujourd'hui, je parle de Simone Signoret et nous évoquerons aussi Gérard Philippe, parce que les deux se sont croisés dans la vie, se sont rencontrés, ont même été, on va dire, copains acteurs, en quelque sorte, camarades, et aussi ont soutenu une même cause, ont soutenu des engagements communs, voilà. Ils ont été compagnons de route, comme on disait, du Parti communiste, avant de prendre leur distance. Hein, voilà. Donc, Simone Signoret. Au préalable, oui, je vais dédier cette émission à Augusta de Retournac, qui est une fidèle auditrice de Radio Acropole en général, et d'Histoire de France et d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui en particulier. Voilà. Donc, Simone Signoret est née le 25 mars 1921 en Allemagne, à Wiesbaden. Son père est un officier de l'occupation, puisque c'est après la guerre de 14, l'Allemagne est occupée, donc c'est donc peu après, 3 ans après la fin de la guerre, son père est officier, voilà. Et puis, donc il retourne ensuite de la famille à Neuilly, hein, donc c'est quand même une famille de la, on va dire, moyenne bourgeoisie, hein, je pense. Son père, en fait, est journaliste radio, et d'ailleurs, il est juif, hein, et il est de parents juifs polonais, et il s'appelle Kaminker, voilà. Donc c'est Simone Kaminker, hein. Elle est donc juive de père, hein. Ça a quand même un sens et une importance, et peut-être une signification de ses engagements futurs, voilà. Donc, grands-parents juifs polonais. Et donc, son père sera assez absent, en fait, puisque au début de la guerre, enfin, pendant la guerre, il va partir en Grande-Bretagne, rejoindre les forces françaises libres, de Gaulle. Donc il sera journaliste, radio apparemment, et ensuite, il partira à Brazzaville, à Radio Brazzaville, l'Afrique de l'Ouest, qui a rejoint le gaullisme, hein, voilà. Il sera speaker à Radio Brazzaville, voilà. Et donc elle restera avec sa mère à Paris. Un épisode, donc bon, c'est une adolescence protégée. Elle fait ses études, ou plutôt sa scolarité à Vannes, au lycée de Vannes, donc en Bretagne, où elle est repliée, disons, avec sa mère. Et elle va faire une rencontre avec un... Mais je vous le dirai après, dans les anecdotes que j'évoquerai en fin d'émission. Elle aura une dame professeure, qui est une personnalité aussi exceptionnelle, importante. Elle a deux frères cadets, hein, Alain et Jean-Pierre, voilà. Et puis, vers l'âge de 14 ans, je crois, par exemple, elle a une bonne éducation, elle fait un séjour en Angleterre, hein, son père y est, donc elle connaît l'anglais, elle maîtrise parfaitement l'anglais. Et elle sera salariée, alors là c'est assez étonnant, vers l'âge de 20 ans, après ses études, 18-20 ans, sa scolarité. Elle est donc salariée, elle est un petit peu secrétaire ou graillot, je crois qu'on dit, enfin, un peu groom, enfin, elle sert les cafés, enfin, elle est secrétaire dans un journal, Les Nouveaux Temps, qui est un journal, alors là, carrément collaborationniste, hein, collabo et pro-nazi, voilà. Et donc, d'ailleurs, le directeur du journal, Jean Lucaire, sera exécuté, hein, à la fin de la guerre, à la libération, voilà. Ça la complexe pas trop, donc bon, on verra que c'est une fille qui a beaucoup d'assurance, elle a du culot, enfin, au sens de, je répète, d'assurance, elle fonce, c'est une fonceuse. Elle déclare qu'ils sont gentils avec elle, quoi, donc elle n'a rien à leur reprocher, et puis elle a besoin de gagner sa vie, voilà. Et alors là, pendant cette période, elle pousse les portes du café de Flore à Saint-Germain-des-Prés, On le sait, c'est un café mythique. Alors, répète, elle n'a pas peur, elle n'a aucune timidité. Et donc, vers 1941, elle découvre tout un autre monde. Enfin, toute cette faune, mais cette faune sublime, enfin, brillante, d'écrivains qui fréquentent le Flore, hein, un lieu mythique. Encore une fois, de Saint-Germain-des-Prés. Alors, Roger Blin, Raymond Bussière, Mouloudji, Jean-Louis Barrault, enfin, et puis il y aura Sartre et Beauvoir, etc. La collectivité du Flore, comme la désigne Jean Gabin. Et donc, elle va commencer à faire des débuts dans le cinéma parce qu'elle noue des relations, elle se fait des copains, donc dans les milieux du cinéma, elle commence déjà à décrocher. Pas encore des rôles, mais encore une fois, des figurations, et puisqu'elle a besoin de vivre aussi, et également des ce qu'elle appelle elle-même des silhouettes, c'est-à-dire un petit peu, c'est juste une phrase ou deux, hein, la tenancière de bar qui dit vous prenez l'apéritif, il y a une phrase ou deux, voilà, au théâtre c'est Madame est servie, et donc elle joue pas. Dans Le Prince Charmant de Jean Boyer, hein, pas Charles Boyer, c'est le réalisateur Jean Boyer. Donc là, elle change son nom, Camille Kerr, c'est pas très bienvenu, surtout à l'époque. Hein, elle s'appelle Signoret, elle prend le nom de famille de sa mère Georgette Signoret, je l'ai pas dit. Voilà. Et donc elle tourne, mais elle n'a pas de carte. À l'époque, il faut une carte pour avoir le droit. Une carte de travail, quoi, qui est délivrée, une carte COIC, Comité d'organisation de l'industrie du cinéma, et qui est délivrée par la commandante Tour ou la propagande Steffel, qui constitue une attestation d'ariannité. Alors, étant juive par son père, évidemment, elle ne peut pas. Et donc, elle oublie sa carte, dit-elle, et puis c'est son assurance, et puis c'est une beauté, à 20 ans. Et donc, on n'insiste pas trop quand elle ne peut pas présenter sa carte. Elle arrive donc à travailler, faire ses tout débuts, hein, au cinéma. Hein, voilà. Donc, il y a quelques figurations. La liste est longue. Hein, par exemple, idem, toujours Jean Boyer. Elle joue pas. Elle apparaît parmi d'autres dans le Boléro. Un film Boléro avec Arletty, d'être principale. Elle décroche un casting là, avec Marcel Carné. Là, elle a des amis, elle est très liante. Enfin, elle a le sens de la communication, puis elle a une assurance. Elle fonce, je l'ai dit. Et donc, elle fait partie dans la figuration parmi la foule. Alors là, elle est dans la foule qu'on voit, qui apparaît dans le film, alors le mythique, Les Visiteurs du Soir. Hein, voilà. Jean-Louis Barrault, etc. Quoi. Et puis, je crois qu'il y a Mime Marceau, je crois que je vous dois, enfin, bien sûr, de Jean Carmet. Elle est dans tout le film. Alors, si vous le revoyez, elle est dans cette foule, dans cette multitude. Voilà. Et puis, alors, dans Les Démons de l'Aube, d'Yves Allégret. Alors là, c'est Yves Allégret, on sait, ça veut devenir son époux, donc ça a un sens. Voilà. Et donc, sa carrière va commencer tout de même. Sa vraie carrière, elle va décrocher des rôles, puis ça va être fulgurant. Il y a une analogie avec Gérard Philippe, hein, puisque lui aussi sa carrière va éclater à la Libération après 45-46, elle aussi, mais le cheminement sera différent pour l'une et l'autre, hein. Donc à la Libération, donc elle va devenir vraiment, elle va apparaître sur l'écran comme actrice, hein, voilà. Et puis le succès va venir très vite. Nous y revenons après, non pas la pause musicale, mais l'intermède musical, parce que nous allons entendre la voix à partir de films, des extraits ou des bandes annonces de Simone Signoret. Donc nous nous retrouvons après l'intermède musical.